Chers auditeurs de Radio Okapi, bienvenue dans cette deuxième partie de votre magazine de la vie au quotidien, Okapi Service. Comment réduire l'importation de produits agricoles dans les grandes villes de la RDC? Nous en parlons avec Madame Brigitte Kenika Saouda, experte en développement et coordonnatrice provinciale de Pikagel Tanganyika. Pikagel, c'est ce programme intégré de croissance agricole dans les provinces du Tanganyika et du Sud Kivu. Madame Brigitte Kenika Saouda, vous êtes déjà en ligne. Bonjour.
Bonjour Monsieur Marcel Ngombo.
Voilà, merci.
Bonjour à tous les auditeurs de la radio Okapi.
Merci d'avoir répondu à notre invitation pour aborder cette question sur comment réduire l'importation des produits agricoles dans les grandes villes de la RDC. Si vous êtes intéressé, vous voulez intervenir, le numéro d'appel c'est les 081 890 63 94 ou encore les 099 706 63 94.
Okapi. Pour participer à Okapi Service, appelez au 081 890 63 94. Écrivez-nous à service@radiookapi.net. Envoyez vos SMS et messages audio sur WhatsApp au 099 706 99 40. Bienvenue également sur la page Facebook du magazine Okapi Service.
En RDC, la production locale des denrées agro-pastorales telles que céréales, lait, poissons et autres produits agroalimentaires ne parvient pas à satisfaire les besoins de la population. Les commerçants recourent à l'importation des semoules, poissons, viande et autres produits de première nécessité qui inondent les marchés de Kinshasa et des autres grandes villes de la RDC. Pour réduire sensiblement l'importation des denrées agroalimentaires, le gouvernement congolais a lancé les programmes intégrés de croissance agricole dans les provinces du Tanganyika et du Sud Kivu. Quelles sont les retombées de ces projets dans ces zones d'intervention? Je le disais, on en parle avec Brigitte Kenika Saouda, experte en développement et coordonnatrice provinciale de Pikagel. Alors, madame, avant d'entrer dans savoir comment on peut réduire l'importation des produits agricoles dans les grandes villes de la RDC, surtout quelles sont les retombées de ce projet à Pikagel dans ces zones d'intervention, c'est-à-dire le Tanganyika et le Sud Kivu, vous voulez d'abord nous parler en quelques mots de ce projet à Pikagel?
Ok, merci beaucoup, Monsieur Marcel Ngombo. Le Pikagel, comme vous l'avez bien dit tout à l'heure, c'est le projet intégré de croissance agricole dans le Grand-Lac. C'est un projet régional qui concerne deux pays, c'est-à-dire le Burundi et la RDC. Et en RDC, le projet est implémenté dans deux provinces, dans le Sud Kivu et dans le Tanganyika. Et ce projet a pour objectif... à long terme, en fait, c'est de pouvoir toucher 200 000 ménages de façon directe, et pour le Tanganyika, 80 000 ménages. Parce que pourquoi 80 000 ménages? Parce que le projet qui est mené dans les deux provinces du Tanganyika et du Sud Kivu, au niveau du Tanganyika, les projets concernent un seul territoire, c'est le territoire du Kalemi, mais dans le Sud Kivu, il concerne 6 territoires. Voilà pourquoi il y a 80 000 ménages qui sont attendus à la fin du projet. Il y a 417 kilomètres qui seront réhabilités par le projet. Il y a des parcs agro-industriels. Il y a beaucoup d'usines de transformation de produits parce que, comme j'ai eu à le dire dans l'émission passée, le projet est en train de travailler dans les filières agricoles qui sont principalement le manioc, le riz, le levage laitier, le maïs et haricots biofortifiés et la pêche et la pisciculture. Et les projets impulsent donc, ça amène les producteurs à produire plus et à améliorer leur technique, leur façon de faire en fait. Et au final, à créer des entreprises agricoles. Comme je venais de suivre tout à l'heure l'intervenant de la première partie de l'émission qui était en train de parler de l'agriculture, nous savons qu'en RDC, l'agriculture est surtout une agriculture de subsistance. Et alors le projet a pour ambition d'amener les gens à faire de l'agriculture, non pas de subsistance, mais vraiment une agriculture industrielle, je pourrais dire, et à se créer des entreprises agricoles et à encourager aussi, particulièrement le jeune et le femme, pour qu'ils s'adonnent à faire le travail de la terre. Voilà un peu de façon ramassée ce que le projet attend à terme.
Bon, et on le sait, Madame Brigitte, à long terme, c'est ce genre de projet, c'est pour arriver à réduire l'importation de produits agricoles dans les grandes villes de la RDC. Est-ce que à ces jours, vous pensez que le projet sur le terrain a déjà quelques bonnes retombées dans la vie au quotidien de populations concernées?
Absolument, monsieur le journaliste, parce que le projet a commencé il y a seulement 2 ans et demi. Et comme j'étais en train de dire que nous travaillons dans les chaînes de valeur. Et quand on parle des chaînes de valeur, on commence premièrement par le semence de qualité. Et donc le projet avait d'abord pour ambition, un premier temps, donc pendant les 6 premiers mois de son existence, de faire des recherches sur des semences de grande qualité, de les reproduire ou de le mettre à la disposition des paysans, d'abord dans le cadre des champs écoles paysans, et ensuite de les produire à grande échelle. Et aujourd'hui, au moment où je vous parle, nous sommes dans la production à grande échelle, donc nous avons déjà dépassé le stade de la production, de la recherche d'abord, puis la production des semences de la première génération, la production des semences de la deuxième génération. Maintenant, nous sommes en train de travailler directement avec les producteurs. Et je vais m'appesantir beaucoup plus sur le Tanganyika, où actuellement, nous avons renversé la tendance qui était d'importer pratiquement tous les produits que nous consommons, et spécialement le manioc, parce que je ne vais parler que de filières dans lesquelles nous travaillons. Le manioc nous venait de la Tanzanie et du Burundi. Je crois 90% de manioc qui était consommé au niveau du Tanganyika nous provenait de ces deux provinces, de ces deux pays, pardon. Mais actuellement, au moment où je vous parle, on commence même à exporter le manioc vers la Tanzanie et vers le Burundi, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Depuis le mois de février que nous avons commencé la grande production, le manioc était, au mois de janvier, le manioc était vendu un sac de 100 kilos à 90 000 francs congolais. Mais au moment où nous sommes en train de faire cette émission, le manioc est vendu à 50 000 francs et le plus cher possible, c'est à 60 000. Vous voyez un peu la grande différence qu'il y a entre 90 000 et 50 000. Donc c'est pratiquement la moitié du prix auquel est vendu aujourd'hui le manioc. Et partout où vous passez, vous trouvez des quantités considérables de manioc. Donc le projet a atteint sa mission qui était de renverser cette tendance-là, de toujours dépendre de l'extérieur.
Donc on se rend compte que l'impact est déjà là, l'impact social est bel et bien déjà là. Alors, qu'est-ce qu'au stade actuel, là, on peut parler pour ce qui est de défis auxquels le projet doit faire face ou fait face?
Bon, le défi, d'abord, le premier défi que nous avons eu à voir quand nous avons commencé le projet, c'était par rapport d'abord aux interventions des terrains. C'est-à-dire, quand le projet est arrivé dans les Tanganyika, nous avons trouvé que 90% des interventions qu'il y avait, c'était des interventions humanitaires. Et quand on parle humanitaire, souvent, on s'attaque aux effets et non aux causes. Et donc, c'était difficile pour nous de pouvoir demander aux gens de travailler eux-mêmes et de n'attendre que les produits de leur travail. C'était vraiment difficile parce que partout où on allait, on nous posait des questions sur nous, on a besoin de manioc, on a besoin du maïs, c'est déjà fait ailleurs. Mais nous avons pu convaincre les gens pour qu'ils comprennent que ce que les différents partenaires amènent comme maïs, comme huile, qu'on distribue aux populations, ça n'a pas été produit dans les usines, ça a été produit dans les champs. Et donc il fallait que les gens comprennent qu'on devait commencer d'abord par la production. Et c'est ce qui a été fait, ça c'est un défi que nous avons pu dépasser, parce qu'aujourd'hui, je peux vous rassurer, monsieur le journaliste, au niveau du Tanganyika, tout le monde est tourné aujourd'hui vers l'agriculture. Au moment où je suis en train de vous parler maintenant, nous sommes en plein atelier où de jeunes qui ont été formés pendant 6 semaines sur l'élaboration de plans d'affaires en matière agricole sont en train de présenter leur projet, de le défendre comme nous le faisons à l'université. Et le meilleur, vont être accompagnés par le projet pour qu'ils puissent implémenter leurs projets agricoles. Donc, ça, c'est vraiment un défi que nous avions eu à faire, mais aujourd'hui, nous sommes en train de le transcender. Mais les gros problèmes que nous avons aujourd'hui, ce sont aussi les aléas climatiques, parce que nous sommes en train d'être butés à un problème très sérieux ici dans le Tanganyika, et je pense que c'est un problème qui est partout en RDC aujourd'hui, c'est par rapport au changement climatique. Nous avons perdu beaucoup de récoltes de riz ce mois ici d'avril. Il y a eu énormément d'inondations. Il y avait du riz parce que, comme j'ai dit tantôt que nous étions aussi dans la production du lait, il y avait du riz qui était déjà récolté, mais qui sont partis, qui ont été emportés par le pluie. Il y a eu des champs qui ont été complètement inondés, mais nous sommes en train de voir au niveau du projet, parce que nous avons aussi un programme sur les aménagements hydro-agricoles que nous espérons qui va commencer bientôt cette année pour résoudre ces problèmes-là. Mais jusque-là, c'est un défi majeur auquel nous sommes confrontés.
Alors, vous avez parlé également de familles et ménages qui sont concernés par ce projet. Comment faites-vous pour atteindre ces familles et tous ces ménages?
Nous commençons d'abord par les sensibilisations. Ça, c'est une étape qui est vraiment incontournable. Nous allons vers les populations, nous les conscientisons, nous leur parlons du projet, nous leur parlons de bienfaits de ces projets, et nous leur encourageons en fait à venir vers nous pour suivre des formations. Ceux qui viennent vers nous, ils suivent les formations, ils sont accompagnés par le projet, ils introduisent leur projet. Ils introduisent les projets avec le plan d'affaires pour nous dire que voilà, si vous nous appuyez avec autant, voilà ce que nous allons produire et voilà ce que ça va nous générer comme ressources. Et ceux-là, nous les accompagnons, nous leur donnons des moyens et ils produisent. Et nous les accompagnons avec des nouvelles technologies, des nouvelles techniques sur le terrain. Ils produisent, nous les accompagnons depuis l'acquisition de semences de qualité. L'acquisition des outils de qualité, ils produisent. Quand ils ont produit, nous les accompagnons aussi à la transformation de ces produits. Non seulement la transformation, même à l'évacuation, parce que nous travaillons aussi dans l'aménagement de routes, des routes et des dessertes agricoles. Et donc, nous sommes, comme j'ai dit tantôt, sur toute la chaîne de valeur. Et donc, il y en a aussi qui se lancent dans la transformation. Et tous ces mondes-là, c'est-à-dire depuis la production des semences jusqu'à la table du consommateur, sont accompagnés par le projet. C'est comme ça que nous identifions, c'est comme ça que nous arrivons à avoir de ménages, que nous accompagnons. Et au jour d'aujourd'hui, au niveau du Tanganyika, nous sommes déjà à 57 645 ménages accompagnés directement par le projet. Voilà, qui sont bénéficiaires de nos actions.
Voilà, avant d'avoir des auditeurs qui sont déjà en ligne, et cette question, et quelles sont à ces jours vos attentes pour ce qui est de ce projet, vos attentes vis-à-vis du gouvernement?
Nos attentes vis-à-vis du gouvernement, je ne dirais pas que ce sont nos attentes à nous en tant que projet, mais c'est plutôt les attentes de la population, parce que je pense que j'avais eu à les dire la fois passée, ce que le projet officiellement doit prendre fin au mois de le 31 décembre 2021. Or, le projet a connu un retard pour son début, pour son exécution de 2 ans et demi. Et le projet est en fait en train d'être implémenté. Pour moi, je dirais que nous sommes à la première année maintenant où nous sommes en train de faire le travail de terrain. Donc, si le projet arrivait à être fermé réellement au 31 décembre, je ne peux pas vous cacher que ça sera la catastrophe, surtout ici dans le Tanganyika, parce que le projet Picagel, c'est l'unique projet, je souligne bien que c'est l'unique projet de grande envergure qui donne des moyens directement à la population, et ces moyens sont retournés dans les circuits financiers de la province, et c'est ces projets qui fait vivre la province en fait. Et si aujourd'hui on arrivait à arrêter le projet à la date qui a été réellement prévue, au 31 décembre, ça sera la catastrophe. Et ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la communauté qui l'a dit, parce qu'il y a même beaucoup de demandes des autres territoires où le projet n'est pas encore arrivé, où on a écrit même au niveau du gouvernement congolais, on a écrit au niveau du bailleur de fonds qui est la Banque mondiale pour demander à ce qu'il y ait extension de ces projets dans les autres territoires de la province, parce qu'on a vu ce que le projet est en train de donner comme résultat au niveau de la province. Je l'ai dit, je crois, au début de cette émission, si pas à l'émission passée, que avant que ces projets ici ne commencent, 99% de ce qui était consommé dans les Tanganyika venait d'ailleurs. Mais aujourd'hui, on a renversé la tendance. Même dans les filières où les projets n'est pas, les projets n'interviennent pas, mais nous avons trouvé que les gens se sont lancés dans la production. Maintenant, on produit pratiquement tout sur le terrain ici. On produit de la tomate, on produit des piments, on produit des légumes. Ce qui n'était pas le cas avant. Il y a seulement 2 ans, tout nous provenait de la Tanzanie ou soit du Burundi. Mais avec, grâce au projet, que ce soit les administratifs, que ce soit même les politiques, tout le monde aujourd'hui vient vers nous pour nous demander des appuis, pas seulement financiers, même les appuis dans le cadre des conseils, voilà, pour qu'ils se lancent, oui, dans l'agriculture.
Voilà.
Et ça, c'est vraiment un impact très positif du projet.
Voilà, Madame Brigitte Kanika Saoud, on revient à vous. Je vous rappelle, si vous venez de vous joindre à nous, nous parlons de comment réduire l'importation de produits agricoles dans les grandes villes de la RDC. Et comme vous le savez, pour réduire sensiblement l'importation des denrées agroalimentaires, les gouvernements congolais ont lancé les programmes intégrés de croissance agricole Pikaje dans les provinces du Tanganyika et du Sud-Kivu. Si vous voulez intervenir, composez les 081 890 63 94 ou les 099 706 63 94.
Radio Okapi. Okapi.
Pour participer à Okapi Service, appelez au 081 890 63 94. Écrivez-nous à service@radiookapi.net. Envoyez vos SMS et messages audio sur WhatsApp au 099 706 99 40. Bienvenue également sur la page Facebook du magazine Okapi Service.
Okapi. Charles Luamba nous appelle de Kalemie. Bonjour Charles.
Bonjour monsieur le journaliste.
Alors vous êtes de l'ONG Kopadi, c'est quoi cet ONG?
Oui, c'est une coopérative paysanne pour le développement intégré.
Alors, vous êtes dans la filière du manioc. J'espère que vous avez pu bénéficier de ce projet à Pikagel, c'est bien cela?
Oui.
Alors, dites-nous comment ça marche avec la filière manioc, vous qui avez pu bénéficier de ce projet.
Oui, chez nous, on peut d'abord saluer la bravoure de madame la coordinatrice de ce projet. On a bénéficié dès le début, et c'est le projet Pikagel qui nous a accompagnés. Et juste depuis la période de préparation des terrains, on a semé. Et à ce temps, on parle avec vous, nous sommes en pleine récolte.
Et, dites-nous, vous êtes en pleine récolte, mais comment vous avez accueilli ces projets, d'autant plus que on vient de suivre madame Brigitte qui nous a parlé de l'impact déjà économique très important, et un impact social économique très important avec la baisse du prix du manioc de votre côté.
Oui, moi je peux confirmer ça, parce qu'au début il y avait quelques aléas par rapport aux situations climatiques. Mais chez nous, il n'avait pas de problème. Si madame la coordination vient de confirmer, ça c'est réel. Parce que sur le plan, lorsqu'on a commencé à faire la récolte, même la baisse des prix des produits agricoles a commencé à baisser. Et l'impact qui est là, pour nous comme coopérative, on coopère directement avec des ménages. Il y a même le main-d'œuvre qui travaille grâce à ces projets. Il y a des gens qui bénéficient de ça.
Et au sein de votre coopérative, il y a également des jeunes qui sont intéressés par cette filière manioc.
Oui, moi-même, que vous parlez avec, je suis jeune. Je suis jeune et même le main d'œuvre, c'est toujours des jeunes.
Voilà, merci à Charles Luamba d'avoir d'intervenir depuis Akalemi. Vous êtes de l'ONG à Kopadi et puis vous avez bénéficié donc de ce projet Pikagel là-bas à Kalemi. Merci d'avoir contribué à passer votre témoignage par rapport à ces sujets sur ce projet à Pikagel. On va se rendre à Mbujimayi pour retrouver Shadrack qui est en ligne. Bonjour Shadrack.
Oui, bonjour Monsieur Marcel, bonjour à Madame Brigitte, bonjour à tous les auditeurs de la Radio Capi.
On vous écoute, Shadrack.
Oui, en fait, étant aussi dans le secteur, comme je l'ai dit tantôt, que nous avons une fondation qui œuvre dans le secteur agricole. Oui. Alors, ma préoccupation était celle de demander à Madame la coordonnatrice à quand l'extension, parce que nous aussi, nous avons dans les filières maïs, manioc, ainsi de suite. Alors, je voudrais si elle peut plaider aussi, parce que Mbujimaï aussi, c'est du fait que c'est les secteurs miniers qui gangrènent, du fait qu'avec la pandémie, Corona, ainsi de suite, le diamant ne marche presque plus. Alors, tout le monde maintenant s'intéresse au secteur agricole. Alors, encore l'extension de ces projets Picagel. Si du reste, à l'entendre, j'ai compris que c'est un projet très efficace. Attends l'extension de ces projets en Mbujimaï. Voilà un peu ma préoccupation. Je dis et je vous remercie.
Merci, Chadrak, d'avoir appelé depuis Mbujimaï. Charles Okisimba, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour, Charles.
Oui, bonjour, Marcel. Bonjour aussi à la dame depuis Kalemie.
On vous écoute, Charles.
Oui. Oui, à mon humble avis, pour parler à la problématique, il faudrait commencer d'abord par maximiser l'économie locale. Pour ne pas dire la maximisation de notre indépendance économique. Alors, une question à la dame. Est-ce qu'il existe une différence entre l'importation ainsi que le commerce extérieur? Et pour terminer, Marcel, il y a une autre tendance qui dit ceci, que c'est toujours nos politiciens ou bien nos décideurs qui investissent toujours ailleurs, à l'étranger, et venir inonder ou bien venir revendre ici chez nous au Congo. Alors, comment expliquer ce paradoxe-là? C'est la question que j'aimerais aussi poser à la dame pour qu'elle puisse un peu m'expliquer. Voilà, merci beaucoup.
Merci Charles Kisimba d'avoir appelé de Lubumbashi. Je m'en vais lire cette réaction sur la page Facebook Okapi Service. C'est Ribongo qui nous écrit depuis Likasi. L'agglomération, les infrastructures sont de plus en plus croissantes. Les produits des denrées alimentaires deviennent rares et continuent d'augmenter le prix. Les grandes villes comme Kinshasa, Lubumbashi, Goma et tant d'autres devraient avoir des grandes fermes agro-pastorales qui produisent des denrées alimentaires permanentes pouvant subvenir aux besoins de la population. Le projet Picagel est une organisation à saluer parce qu'il peut apporter une satisfaction aux produits de première nécessité. Mais attention, ce projet ne doit pas être seulement dans ces deux provinces, Tanganyika et Sud-Kivu, étant donné que la République démocratique du Congo est plus vaste. Il doit être expansif dans d'autres provinces pour lutter contre les flambées des denrées alimentaires. Ça, c'est Ribongoy qui nous a écrit depuis Likasi. Madame Brigitte, comment réagissez-vous par rapport à toutes ces interventions?
Oui, je crois que la question de notre ami qui vient d'appeler de Likasi est la même pratiquement de M. Chadrak qui a appelé de Mbujimaï pour demander à quand l'extension du projet. En fait, comme j'ai eu à le dire lors de la dernière émission, c'est que l'extension du projet ne dépend pas de nous. Ça, c'est une question politique parce que, en fait, comme vous le savez, le projet Picagel, c'est un projet du gouvernement congolais, le gouvernement central, avec son partenaire qui est la Banque mondiale. Et c'est au niveau de Kinshasa, donc au niveau des décideurs, qu'on décide, permettez la tautologie, où est-ce que le projet doit se passer. Mais je pense que sur demande de la population, si la population elle-même demande et fait arriver la demande au niveau, donc les besoins au niveau des décideurs politiques, il est fort probable que le gouvernement congolais avec son partenaire la Banque mondiale puisse s'entendre sur l'extension du projet ou pas. Pourquoi ne pas créer un autre projet qui a pratiquement le même objectif au niveau des autres provinces. Quant à la question de M. Charles Kisimba à partir de Lubumbashi, qui a demandé s'il existe une différence entre le commerce extérieur, je crois bien.
Oui, et l'importation.
Et le commerce intérieur.
Et l'importation. Oui. Et c'est bien cela, les îles.
Oui, je crois que. Oui, moi je pense qu'il y a une grande différence parce que quand on parle du commerce extérieur, c'est les transactions qui existent entre deux pays différents. C'est ça, je crois, sauf si je me trompe. le commerce extérieur fait intervenir en fait les échanges entre deux pays ou plusieurs pays ensemble. Mais ici, nous sommes en train de parler plutôt des échanges à l'intérieur du pays, parce que effectivement, comme j'ai allé dire, le projet, en fait, tous les commerces du Tanganyika étaient tournés vers l'extérieur. Donc, on consommait ce qu'on ne produisait pas. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de renverser cette tendance-là, et c'est là même l'objectif ultime du projet, c'est de renverser cette tendance de toujours dépendre de l'extérieur, mais maintenant produire ce que nous mangeons, ou manger ce que nous produisons réellement, nous-mêmes au niveau du pays. Et c'est ça les challenges auxquels nous sommes appelés. Et comme nous avons eu à le dire que nous travaillons dans quelques filières, mais nous avons remarqué, ici dans les Tanganyika, que le fait que le manioc soit inondé sur le marché, ça a entraîné la baisse de prix du maïs. Ce qui fait qu'aujourd'hui, même le maïs, même s'il n'est pas produit à très grande échelle au niveau local, mais son importation diminue, parce que les gens préféreraient encore utiliser les maniocs, avoir une petite quantité de maïs, mais une grande quantité de manioc, parce que le manioc a baissé le prix. Et ça, c'est encore un point positif que nous avons pu remarquer à partir du projet. Et donc, par rapport à la dernière question, j'avais déjà répondu la question de monsieur qui est appelé de l'ICASI, donc c'était la même avec monsieur Chadrec.
Oui. Alors, parce que vous avez en dehors de la filière manioc, vous avez il y a également le riz et puis l'élevage laitier. Et dites-nous un peu comment ça se passe de ces côtés-là.
Oui, en tout cas pour ce qui concerne le riz, nous sommes aussi très avancés.
Oui.
Nous sommes arrivés à produire déjà 7000 tonnes de riz au niveau du Tanganyika. Au niveau du Sud Kivu, étant donné qu'ils ont des infrastructures de transformation, le riz transformé est déjà sur le marché. Donc, si vous arrivez dans certaines alimentations au niveau de Bukavu, vous allez trouver qu'il y a déjà le riz estampillé Picagel qui est sur le marché. Au niveau du Tanganyika, nous étions butés à un petit souci, c'est par rapport à la transformation de produits. Comme j'avais dit que nous travaillons pratiquement sur toute la filière, nous sommes en train de construire les usines de transformation de produits et je pense que d'ici fin du mois de juin, on aura du riz dans les alimentations estampillées Picagel, parce que nous sommes en train de monter 10 usines de transformation de riz. Les machines sont déjà commandées et nous osons croire que nous les aurons d'ici le mois de juin. Mais aussi ce que je voulais dire à ces niveaux-là, malgré que nous n'avons pas encore commencé à produire à très grande échelle le riz, faute de moyens de transformation, le riz est déjà sur le marché. J'avais dit la fois passée que nous avons produit le riz de variété locale qui est très prisé, c'est l'Etuliena Bona, qui est un riz parfumé que nous avons mis sur le marché. Il y a même le riz jasmine qui nous est venu de l'extérieur, mais que nous avons pu produire à grande échelle. Et à ces niveaux-là, ce que nous devons dire, c'est que la production du riz, avant l'intervention du projet, nous étions à 2,5 hectares à 2,5 tonnes par hectare. Mais grâce au projet, nous sommes arrivés à plus de 6,5 tonnes par hectare. C'est tout simplement parce que nous avons apporté des nouvelles technologies dans les SRI, c'est-à-dire le système de riziculture intensif, et puis les GIFS, qui est la gestion intégrée de fertilité du sol, que nous sommes en train d'apprendre aux populations et aux producteurs. Et ils ont diminué la quantité de semences, mais augmenté de façon exponentielle la production et la productivité. Et pour ce qui concerne le lait, ce que je dois dire, c'est que nous sommes en train de travailler dans l'élevage laitier, et nous avons introduit dans le Tanganyika de vaches laitières de races très améliorées. Donc nous avons les Sayoual. Nous avons introduit les Sayoual, nous avons distribué 72 génisses, et toutes les génisses, pour la petite information, les génisses, j'aime bien les appeler, ce sont les jeunes filles de vaches. Nous avons introduit 72 génisses au niveau du Tanganyika et toutes les génisses étaient gestantes, c'est-à-dire elles attendaient des petits. Et j'ai le plaisir d'annoncer à notre public, nous avons introduit ces génisses au mois de décembre et aujourd'hui nous avons déjà des petits qui ont commencé à naître, donc de bébés picagels qui sont déjà là. Voilà un peu pour ces deux filières que nous avons introduites. Mais pour ce qui concerne aussi la pêche et la pisciculture, nous allons introduire la pisciculture en cage, c'est-à-dire l'aquaculture. Donc, au niveau du lac Tanganyika et au niveau de grandes rivières, nous allons élever le poisson, je dis bien élever le poisson, c'est-à-dire que nous allons venir avec des alevins qui sont déjà commandés, le cage sont déjà aussi commandés et nous les aurons d'ici la fin de ce mois de mai et nous allons produire à très grande quantité le tilapia sur place ici. Donc nous allons faire aussi l'élevage de poissons et nous sommes en train de travailler aussi dans la conservation de poissons avec des fours fork-cork qui sont déjà en train d'être montés. Nous avons déjà certains qui sont déjà opérationnels. C'est pour diminuer la perte post-capture de poissons.
Voilà, justement.
Et oui. Aussi, sans oublier, bien sûr, la conservation de poissons frais.
Voilà, justement, pour revenir à l'élevage laitier, nous avons Madame Alphonsine qui nous appelle de Calémie. Madame Alphonsine, bonjour.
Bonjour.
Vous nous appelez de Calémie, vous êtes de l'ONG KMG. C'est quoi cette ONG KMG?
Kundi la maendeleo jimbo, comme on est sur le fond, kundi comme un groupe de maendeleo jimbo.
Alors, vous êtes dans la filière élevage laitier et vous avez également bénéficié du projet Picagel. Alors, dites-nous comment ça se passe avec l'élevage laitier grâce à ce projet à Picagel au sein de votre ONG.
Donc, c'est dans le riz que nous avons bénéficié de la subvention de Picagel.
Ah, c'est plutôt dans le riz, hein. Allez-y. Alors, dites-nous comment ça se passe.
Bon, dans le riz, Picagel avait lancé son appel à projet. C'est ainsi que nous avons tout solutionné. Et nous, on avait été sélectionnés et on a réussi, donc on a été sélectionnés. On a commencé à faire les travaux après avoir signé le contrat avec Picagel.
Ah, mais dites-nous comment les choses ont évolué, c'est-à-dire comment travaillez-vous avant et qu'est-ce qui a été l'apport, qu'est-ce qui a été la particularité avec ce projet de Picagel pour que vous améliorez le travail que vous faites dans la culture du riz.
Ok, la particularité, je peux dire, c'est la position d'abord à la technique. Le Picagel nous a offert par le biais de Ricolpo, son partenaire. Et c'était son partenaire technique qui nous a fait suivre les formations. Ma maman, je l'ai suivi, elle venait de le dire, c'était d'abord la première formation en gestion intégrée des fertilités du sol. On a suivi encore une autre formation dans le système de l'agriculture intensive et aussi dans la plateforme C'est tout un projet, c'est trois formations qui nous a vraiment aidé. Maintenant, nous avons suivi la formation. C'est ainsi qui nous a aidé vraiment à produire comme il faut.
Voilà, on va pas continuer avec la ligne de Madame Alphonsine. La communication n'est pas trop très claire, mais on a compris. Il a bénéficié de ce projet et puis ça marche bien dans la filière riz. Merci Madame Alphonsine d'avoir appelé de Calémi. Maître Gaston, vous êtes ici à Kinshasa. Bonjour Maître Gaston.
Bonjour Marcel.
On vous écoute.
Bon Marcel, j'aimerais un peu savoir, il y a plusieurs projets, hein. Donc, qui ont été financés, initiés, financés dans les secteurs. Mais apparemment, comme si ça ne produit pas les effets à long terme, hein, les résultats positifs à long terme. Je voulais un peu savoir qu'est-ce qui est à la base de tout ça. Parce que depuis lors, on a vu surtout la communauté internationale financer des projets dans le cadre d'accord avec le gouvernement. Des projets sont financés et sur terrain, on ne sait pas vraiment voir les résultats à long terme.
Et vous avez pas, une question concernant ce projet dont on parle dans les provinces du Tanganyika et du Sud Kivu dans les pour la croissance agricole, le progrès Pukajel qui est dans la filière riz, manioc et élevage laitier.
Non, il y en a, mais c'est assez ça d'ici.
Oui.
Le constat qui est fait est que beaucoup d'argent qui est financé, la majorité rentre dans la formation des soi-disant nos agriculteurs locaux. Et pourtant, ces mamans-là savent déjà planter, ils entretiennent bien leur production. Et pourquoi ne pas directement fournir en entrant ces mamans-là et les accompagner dans la transformation de leur production? Parce que la maman dit qu'ils exercent dans les chaînes de valeur, commençant à fournir des semences jusqu'à transformer leur production. Je voulais un peu savoir pourquoi ne pas allouer beaucoup d'argent dans l'autre domaine, et que ce soit dans le domaine de payer les formateurs, des trucs comme ça. Et pourtant, nos mamans, depuis leur plante, déjà comme il faut.
D'accord.
Je voulais aussi savoir pourquoi
oui.
Les produits locaux sont moins préférés que ceux importés. Est-ce que c'est possible de renverser cette tendance-là? Parce qu'apparemment, les gens ont tendance à consommer ce qui vient d'ailleurs. Et les nôtres aussi, les pays qui arrivent dans la ville, des fois c'est très cher, des prix comme ça.
Merci.
Je voulais un peu savoir s'il y a possibilité de renverser cette tendance.
Merci Maître Gaston d'avoir appelé de Kinshasa. Alain Moulamba, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour Alain.
Bonjour la radio Okapi.
On vous écoute Alain.
Oui, j'avais une petite préoccupation à poser à madame notre invitée.
Oui.
Parce que, je suis très satisfait de ces financements-là. Maintenant, le grand problème que je me pose comme question, c'est que comment expliquer, madame vient de dire qu'ils ont produit beaucoup de manioc, et au moment où il nous parle, il dit qu'ils ont commencé même aussi à exporter vers la Tanzanie et Burundi et autres. Maintenant, les financements-là, pendant que nous, ici au Congo, nous sommes en train de mourir affamés, comme ici, dans la ville de Lubumbashi, on n'est pas suffisant, on n'a pas l'autosuffisance en aliments. Qu'est-ce qui a expliqué qu'elles, avec leur financement, ils ont commencé à exporter vers la Tanzanie pendant qu'en République démocratique du Congo, on se meurt encore de faim. Parce qu'elle a encore dit, nous sommes en train de faire les projets pour commencer à produire beaucoup de poissons, tilapia, tout ça. Maintenant, les poissons tilapia qui seront maintenant produits, ça sera encore exporté vers les pays étrangers ou bien c'est pour être utilisé localement? En tout cas, s'il y a un problème, qu'elle nous dise. S'il y a une difficulté, qu'elle nous dise pendant que, au moment où nous avons besoin de manger à notre faim, et elle commence déjà à exporter. Qu'est-ce qu'il y a à la base? C'était juste ça, ma préoccupation.
Merci.
Que madame puisse quand même nous éclaircir.
Merci Alain. Merci d'avoir appelé depuis Lubumbashi à Guémena. Rigobert est en ligne. Bonjour Rigobert.
Oui, bonjour la démocratie. Bonjour la
carnet. On vous écoute Rigobert.
Oui, ma préoccupation est celle-ci. Par rapport à la Pukajel, vraiment c'est une grande renommée. Ma préoccupation est celle-ci, parce que le Pukajel est seulement pour Lubumbashi et Kivu, ou c'est pour les Tanganyika et Sud Kivu, ou c'est toute la RDC. Si c'est pour toute la RDC, pourquoi pas intensifier les extensions à partir des autres provinces, et même rien que pourquoi ce n'est que les deux provinces là. Et en les écoutant bel et bien, c'est vraiment c'est pour relancer l'économie du pays. Vraiment, les œuvres que Kitaïen est en train d'évoluer à partir des sites qui vont, à partir des Tanganyika, c'est pour intensifier et diminuer la pauvreté du pays. Je pense que si Kitaïen vraiment, en communion avec la RDC, avec notre gouvernement, intensifier les extensions à partir des autres provinces, vraiment, ce serait un atout. C'est ça vraiment mon intervention auprès de la radio Capi, auprès de la coordinatrice. Et vraiment, je suis en train de louer, de saluer les gestes-là. Merci.
Merci, Rigobert, depuis Guébéna. Glody, vous êtes à Bandundouville. Bonjour, Glody.
Oui, bonjour, monsieur Marcel. Bonjour à tous les auditeurs qui nous écoutent à partir de ce moment.
Alors, vous écoutez, Glody. Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à ce sujet sur comment réduire l'importation de d'arrêts agro-pastorales en RDC?
Oui, merci beaucoup pour la parole à Cordeux. Je pense que pour réduire le taux d'importation agro-pastorale en République démocratique du Congo, nous devons produire. Comme nous produisons, nous devons voir qu'est-ce que nous produisons, quel est le produit que nous produisons et qu'est-ce que ça fait sur le marché. Parce que vous allez se rendre compte que c'est vrai qu'on produit, mais le prix de produits agricoles sur le marché est trop cher. La population congolaise n'arrive pas à s'en procurer parce que c'est trop cher par rapport des produits qui viennent d'ailleurs. Donc, vous allez se rendre compte que les produits qui viennent de différents pays est moins cher par rapport aux produits que nous produisons localement. Là, c'est un peu compliqué. Alors, je compte poser la question à Madame l'invitée. Moi, j'espère que 80% des populations de la RDC souffrent des carences alimentaires. Pensez-vous seulement travailler dans les différentes provinces? Vous ne passez pas aussi à travailler les procédés de casier dans les différentes provinces parce que généralement, il y a tant de problèmes qui se passent ici au niveau de la ville de Bandundu. Et ça, il faut se vendre à 10 000 francs, mais actuellement, c'est à 50 000 francs. Alors, la population ne sait pas comment faire pour l'en procurer et c'est très compliqué. Alors, je pose la question, Madame l'invité. Par rapport, depuis que vous avez commencé les projets Picagel, qu'est-ce que vous avez fait et qu'est-ce que vous comptez faire? C'est la question numéro 1. Et la question numéro 2. Parmi les variétés que vous produisez de manioc, quelles sont les variétés que vous utilisez et que vous produisez souvent? Les variétés locales ou bien les variétés exportées? Si vous pouvez nous expliquer, parce qu'il y a une grande différence qui se trouve entre nos variétés locales et les variétés importées. Parce que les variétés importées, ça produit plus de résultats par rapport à nos variétés locales. Donc ça dépend à la personne, à une autre. Si vous pouvez vous nous expliquer, je crois que ça va être une bonne chose pour nous. Merci beaucoup.
Merci, Glody, depuis Bandundouville. On va prendre le tout dernier auditeur, Alphonse, qui nous appelle depuis Ingokolo, à Nitouri. Alphonse, bonjour. Alphonse, vous êtes en ligne? Et Alphonse n'est plus en ligne. On revient à notre invité, Madame Brigitte Kanika. Vous avez suivi Madame Gaston qui a parlé de la formation et l'estime que la formation absorbe aussi beaucoup d'argent s'il fallait seulement, puisque ces femmes-là connaissent déjà leur travail, ou ces jeunes-là entre pour ce qui est de l'agriculture, s'il fallait déjà seulement leur remettre des semences. Hein. Et puis il a dit pourquoi c'est bien ce que vous faites, mais généralement on constate que le produit à l'eau sont moins préférés hein, par rapport aux produits à exporter. Et vous avez également suivi Alain qui a parlé de qui a loué le projet, mais qui a demandé si on pouvait là c'est plutôt Rigobert, si le projet, parce que ça permet de réduire la pauvreté, ça permet également de booster hein, la production sur place au pays. Pourquoi faut dans quelle mesure ça c'est bien, vous venez qu'une coordonnatrice pour ce qui est du Tanganyika, mais il a cherché à ce que ce projet soit également qu'on puisse également amener ce projet dans d'autres provinces du pays. Mais également Alain, je crois, qui a posé une question concernant, je pense, c'est que vous faites et par rapport à l'impact que cela a déjà. Et puis il y a le dernier auditeur qui a cherché à connaître les variétés que vous utilisez, Madame Brigitte Kanika.
Ok, merci beaucoup, Monsieur Marcel. Par rapport à Monsieur Gaston, qui a posé la question sur pourquoi on met beaucoup de moyens sur les formations, je pense que la réponse est claire. Tant qu'on n'est pas formé, il est difficile d'améliorer le travail qu'on est en train de faire. La formation fait partie intégrante. Ça fait partie intégrante des acquis pour pouvoir produire plus. Ce n'est pas pour rien que nous avons des agronomes qui font 5 ans à l'université. C'est pour qu'ils apprennent à produire et à bien produire. C'est vrai que nos mamans, c'est vrai que nos paysans, ils ont leur technologie. Voilà pourquoi au niveau du projet Picagel, quand nous commençons à travailler avec un groupe de gens, nous amenons la nouvelle technologie, mais nous n'abolissons pas l'ancienne technologie. Nous essayons de faire les deux au même moment. Nous faisons les champs-écoles paysans. Et dans ces champs-écoles, nous demandons aux producteurs de continuer avec leur ancienne façon de faire et de continuer, de commencer avec la nouvelle façon de faire. Et c'est après que eux-mêmes ils vont choisir qu'est-ce qu'ils pensent qui est mieux pour eux. Parce que nous avons dit que nous travaillons dans une chaîne de valeur. Et dans une chaîne de valeur, on commence depuis le semence amélioré en passant par les nouvelles technologies. Et c'est ce que nous faisons. Nous avons dit tantôt, pour ce qui concernait le manioc par exemple, au niveau du Tanganyika, nous étions à 8 tonnes de production par rapport, avec le méthode locale. Nous étions à 8 tonnes de production. Mais avec les nouvelles technologies que le projet a amenées, je vous dis qu'il y a des endroits où nous sommes arrivés à 80 tonnes par hectare.
Justement.
Donc, on a multiplié par 10 le rendement. On a multiplié par 10. Et pour qu'on arrive à faire cela, il faut absolument passer par le formation. J'ai toujours posé une question.
Oui, justement, parce que là, sinon ça va m'échapper. Hein. Il y a Alain qui a, vous avez parlé de cette augmentation de la production, mais Alain qui a posé la question de savoir, vous êtes à Kalemie, comment vous exportez déjà alors qu'à Lubumbashi, des fois ils ont aussi un problème d'accès à...
Oui, je pense que c'est un problème très réel qu'a posé Monsieur Alain.
Oui.
Si on arrive déjà à exporter, c'est tout simplement parce que nous avons pris, on a pris cette facilité que nous donne le lac Tanganyika. Parce que quitter Kalemie jusqu'au Burundi, ça vous fait 6 heures de bateau. On prend toute la nuit parce que ça roule lentement et les bateaux ne voyagent que la nuit. La même chose avec la Tanzanie d'ailleurs qui est à 117 kilomètres de Kalemie, la ville de Kigoma. Vous avez pratiquement 4 à 5 heures de temps. Mais si on doit prendre Lubumbashi, nous avons un problème très sérieux, c'est par rapport aux routes. C'est par rapport aux routes nationales. Je ne parle pas des routes des dessertes agricoles parce que le Picagel est en train de travailler dans les routes des dessertes agricoles pour amener le produit au niveau des centres de consommation, premièrement, qui est Kalemie. Mais dès que ça arrive au niveau de Kalemie, il faudra qu'on puisse aussi les amener le produit dans les autres provinces ou dans les autres milieux, dans les autres territoires. Mais pour ce faire, il faut absolument que les routes d'intérêt soient nationales, soit les routes d'intérêt régional soit opérationnel. C'est là où nous sommes bloqués. Parce que de Kalemie à Lubumbashi, un camion fait in à 2 semaines. C'est pas toujours évident que les commerçants puissent amener les produits de ces côtés-là. Mais c'est notre souci parce que le projet a été créé pour donner à manger à la population congolaise. C'est d'abord ça l'objectif du projet. C'est donner à manger à la population congolaise. Mais nous sommes bités à des difficultés. Comment évacuer dans les autres provinces? Comment évacuer dans les autres territoires? C'est là où il y a un problème. Voilà pourquoi les commerçants qui cherchent aussi la rentabilité, ils préfèrent que le surplus soit évacué vers le pays limitrophe où nous utilisons le lac. Aussi, il y a des produits qui vont à Moba. Moba, c'est un territoire du Tanganyika et on utilise les lacs et là, ça pose pas problème. Donc voilà un peu par rapport à M. Alain. Et moi, je dis que sa préoccupation est vraiment légitime parce que le projet a pour vocation de donner à manger premièrement aux Congolais. Mais par rapport maintenant à la préoccupation de M. Rigobert qui nous a appelé depuis Guémena, qui a dit que pourquoi est-ce que le projet ne pourrait pas aller dans toutes les provinces de la RDC. Je crois que c'est une question à laquelle nous avions déjà répondu. Mais au niveau de Guémena, si je ne m'abuse, je crois qu'ils ont les projets PARSA, qui a pratiquement la même vocation que les projets Picagel, mais qui ne sont pas dans le même filière, malheureusement. Mais c'est Glody qui a demandé pourquoi est-ce que les produits locaux sont plus chers que les produits importés. Moi, je pense que la réponse, elle est simple. L'agriculture Ailleurs, l'agriculture est subventionnée. Mais au niveau de la RDC, ce n'est pas le cas. L'agriculture de la RDC n'est pas subventionnée. Mais le projet Picagel est en train de subventionner les agriculteurs. Voilà pourquoi nos produits sont compétitifs sur le marché. Parce que déjà, nous appuyons la production. Nous appuyons déjà, nous donnons des moyens aux producteurs. C'est comme ça que les produits sont compétitifs. Et puis, il y a un autre élément par rapport à la compétitivité, c'est aussi la qualité. Est-ce que le produit, les aliments produits localement, est-ce que sur le plan même de la qualité et de la quantité, est-ce que c'est compétitif? Voilà les trois éléments qui peuvent faire à ce que les produits locaux ne soient pas prisés par rapport aux produits importés. Mais nous, au niveau du Picagel, nous avons résolu aussi ces problèmes parce que nous regardons, nous commençons par la qualité des aliments, la qualité et la quantité. C'est pour cela que nous disons que nous sommes en train de renverser un peu cette tendance-là de toujours importer.
Voilà.
Alors, de toujours importer nos aliments.
Voilà. Alors, c'est la dernière question avec Lodi, parce que la filière de manioc marche très très bien. Il a cherché à savoir c'est quelle variété, et puis on va s'arrêter par là, ça sera la dernière question.
Oui, donc le manioc, nous avons apporté 17 variétés. Ce que je dois dire ici, parce que M. Glody avait demandé si les variétés sont importées, les variétés que nous avons amenées sont venues du Bas-Congo. Nous en avons amené 17, et sur les 17, il y a eu la sélection participative de variétés, et il y en a deux qui se sont démarquées, c'est la variété Sawa Sawa et la variété Sansi, pour ce qui concerne le manioc.
Voilà, on va s'arrêter par là. Madame Brigitte Kanika Saouda, nous rappelons que vous êtes experte en développement et coordonnatrice provinciale de Picagel Tanganyika. Avec vous, on a parlé de ce projet, surtout de son impact sur la réduction de l'importation de produits agricoles dans les grandes villes de la RDC. Merci d'avoir été des nôtres. C'est un vrai plaisir de vous avoir comme invité. On espère vous retrouver prochainement.